Allô? Allô?
Mais,
ils ne répondent pas?
Et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs en ce début de la semaine. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga-Ilunkamba a remis officiellement le mercredi 4 novembre dernier la zone économique spéciale de Maluku à la firme Strategos. À cette occasion, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a invité les entreprises qui le veulent de venir investir dans cette zone économique spéciale pour bénéficier des lois économiques plus libérales et des allègements fiscaux. D'autres zones économiques spéciales doivent être installées aussi dans d'autres provinces du pays. Comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer dans cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité d'interagir sur notre page Facebook. Ça fait un mois, comme d'habitude, nous touchons toujours la barre de 100 000 personnes qui sont touchées par nos différents sujets que nous vous proposons dans les débats de parole aux auditeurs. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents sujets. Nous recevons pour vous dans cette émission M. Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Avec lui, nous allons échanger de manière citoyenne ensemble avec les compatriotes ici au pays et à l'étranger. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Paul Badianyam et Jeannot Matuaki assurent la mise en onde, concourent à la production de cette émission. Merci une fois encore. Et J.R. Lungembo est à la coordination et à la présentation de ce programme. Nous recevons, comme je l'ai dit en sommaire, le ministre de l'Industrie, M. Julien Paluku. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi que je retrouve après un bon moment.
Un long moment et de silence. Merci de la disponibilité. Alors, d'entrée des jeux, en quoi consiste réellement cette zone économique spéciale?
Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une zone économique spéciale, c'est d'abord une région à laquelle l'État accorde un statut particulier pour que les investisseurs qui vont s'y installer bénéficient des allègements fiscaux, parafiscaux, douaniers, beaucoup d'avantages qui leur permettent d'être à l'abri des tracasseries. Vous savez, avec la politique actuelle, notre gouvernement veut effectivement que, au-delà de l'agriculture qui nous donne les produits bruts, il faut transformer ceci pour leur donner une valeur ajoutée. Et étant donné que cela tarde et que nous importons beaucoup de nos produits agricoles de l'extérieur, il a été donc important que cette politique soit mise en place pour permettre la transformation de nos produits à l'intérieur de notre pays et ainsi éviter la sortie régulière des devises vers l'extérieur.
Et quel est le soubassement juridique de ces projets?
D'abord, il y a une loi qui date de plus de 5 ans, qui avait été votée par le Parlement. De deux, il y a une agence qui a été créée par un décret du Premier ministre, l'Agence des zones économiques spéciales, en abrégé AZES, qui a pour mission de réguler effectivement les activités qui auront lieu dans toutes les zones économiques spéciales qui vont devoir fonctionner sur l'ensemble de la République. De trois, il y a un autre décret que nous avons fait approuver par le gouvernement, les décrets fixant les avantages et les facilités à accorder aussi bien aux aménageurs qu'aux entreprises qui vont s'installer dans les zones économiques spéciales. Donc sur le plan juridique, nous avons rempli toutes les conditions et donc rien ne peut nous empêcher aujourd'hui d'aller vers l'avant, de nous comporter comme d'autres pays qui ont expérimenté effectivement ces zones économiques spéciales qui leur ont donné beaucoup d'avantages, beaucoup d'emplois, beaucoup de richesses et permettre effectivement la croissance économique.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouveauté à mettre dans l'actif de la Troisième République?
C'est une grande première. On a appris ces expériences en Chine. Il y a une zone qu'on appelle la zone de Zenzen. Ça dépend de celui qui prononce ce nom-là chinois. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les produits chinois livrés sur les marchés, aussi bien régional qu'international, à moins cher, les gens se posent des questions. Comment cela est possible que les produits chinois soient moins chers? D'autres pensent que c'est parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Non, Les produits ne sont pas de mauvaise qualité, mais c'est parce qu'ils sortent des zones économiques spéciales où il y a des allègements fiscaux, où les entreprises qui s'y installent produisent hors taxes. Les entreprises européennes et américaines sont installées en Chine, et c'est donc ça a été une politique des Chinois pour attirer les Européens et les Américains à venir produire chez eux, à créer de l'emploi chez eux. Et aujourd'hui, les zones économiques spéciales en Chine ont réussi presque à donner aux Chinois plus de 100 millions d'emplois. Et donc, nous avons estimé que pour cette Troisième République, une des grandes premières qui devait être introduite, c'est la mise en œuvre de ces zones économiques spéciales pour non seulement permettre de transformer nos produits ou nos matières premières, mais également créer des millions d'emplois à ces jeunes qui terminent les universités, mais qui n'ont pas où œuvrer. Voilà pourquoi je me joins à ce que vous dites, que c'est une grande première dans la Troisième République que ces zones économiques soient mises en place, effectivement.
Alors, nous savons que l'économie congolaise est extravertie. Est-ce qu'il lui a fallu réellement un modèle chinois pour une réforme de qualité?
Oui, il n'y a pas seulement que le modèle chinois qui fait référence. D'autres pays africains ont dû adopter effectivement la politique des zones économiques spéciales. J'ai été plusieurs fois en Égypte, j'ai été en Russie, il y a une délégation qui est allée au Gabon. Donc c'est des modèles qui ont réussi ailleurs. Et un pays comme la RDC, qui a 80 millions de terres arables, mais pour lesquelles nous importons pour 1 milliard 500 millions par mois de produits agroalimentaires, ça pose quand même un problème. C'est un problème très sérieux. Imaginez-vous, le ministère de l'Industrie, lui, il commence là où celui de l'agriculture se limite. Quand on parle de manioc, ce sont des tubercules. Quand on parle des arachides, ce sont des pousses. Quand on parle de l'huile de palme, ce sont des noix. Quand on parle du bois, ce sont des grumes. Mais au niveau de l'industrie, donc de la transformation, on doit transformer et ces tubercules, et ces gousses d'arachide, et ces noix de palme, et ces grimes de bois, et ces minerais de fer, et ces poids de vache pour devenir des ceintures ou des souliers, et ces fruits pour devenir du jus, et ces calcaires pour devenir du ciment. Donc voilà l'avantage de créer ces unités-là, autonomes, indépendantes, à l'intérieur desquelles il n'y a pas de tracasserie, pour permettre effectivement que l'on passe des simples slogans de dire la RDC est un scandale dans tous les domaines, mais qu'on passe désormais à l'opérationnalisation de ce scandale-là vers une richesse palpable, perceptible, qui est créatrice d'emplois et qui peut nous permettre d'augmenter notre produit intérieur brut, qui peut nous permettre d'accroître nos exportations et ainsi de rapatrier les devises et stabiliser notre économie. Donc voilà la politique au niveau du ministère de l'Industrie qui est en train d'être mise à chantier.
Alors, l'expérience de Bukanga Lonzo sur la zone économique spéciale de Maluku donne à penser aujourd'hui. Finalement, la population commence à redouter que ce projet puisse accoucher d'une souris dans les jours à venir.
Oui, bon, autre époque, autre mœurs, Bukanga Lonzo, ça a été un parc agro-industriel. Il n'a pas bénéficié d'autant d'avantages, comme je viens de le dire tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas de décret qui accordait les avantages, comme c'est le cas avec la zone économique spéciale de Maluku et d'autres zones qui seront créées. Moi, je crois que cette expérience de Bukanga Lonzo aussi devrait nous éclairer dans ce qu'on est en train de faire. Ici, l'avantage pour les zones économiques spéciales, c'est que ce n'est pas l'État congolais qui sera acteur seul, mais il y a deux politiques. La première, c'est de mettre en place un partenariat public-privé où l'État congolais peut s'associer aux investisseurs pour devoir créer la zone, et c'est le cas de Maluku. L'État congolais a mis 22 millions de dollars pour construire les infrastructures de base dans la zone économique spéciale de Maluku. C'est un montant qui devait être donné par la Banque mondiale, mais malheureusement qui s'est retiré. Parce que tout simplement, il y avait beaucoup de retard. Mais le gouvernement congolais, par le financement de la BAD, par un crédit obtenu à la banque, a mis à la disposition de l'aménageur autour de 22 millions de dollars pour rendre opérationnelle la zone économique spéciale. Alors, la deuxième politique, c'est de promouvoir les zones économiques spéciales 100% privées. C'est-à-dire, des privés viennent avec des idées de créer une zone, on leur accorde le statut de la zone économique spéciale, et c'est le cas qu'on va faire dans les Haut-Katanga, dans les Lualaba, dans les Nord-Kivu, où des privés seuls sont responsables de la zone, ils y appellent des entreprises, des investisseurs, et l'État n'a que le rôle de régulation des activités qui s'y passent mais ne s'immixe pas dans la politique intérieure de la mise en place de la zone économique spéciale. Donc ce sont là les deux politiques que nous sommes en train de mettre en place pour nous permettre de relever les défis et de tirer des leçons des expériences malheureuses que la République démocratique du Congo a connues.
Merci beaucoup, Monsieur Julien Paluku. Nous vous gardons en ligne les temps que vous écoutez également les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Il y a Sylvain qui est à Bounia et Christian Politassi à Kinshasa. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Sylvain, vous êtes à Bounia, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour.
Alors, vous avez suivi notre invité. Comment jugez-vous la politique mise en place par le gouvernement pour la mise en œuvre de cette zone économique spéciale?
Je voudrais d'abord saluer M. Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Et ici, je pense qu'il faut dire et même préciser trois choses. C'est que lorsque qu'une politique publique décide de mettre en place ce qu'on appelle une zone économique spéciale, avant tout, c'est avec l'idée de booster la croissance économique d'une économie. Deuxième chose, toujours dans la politique économique globale, lorsqu'on parle de la zone économique spéciale, les soucis, c'est aussi de donner la réponse au problème des dysfonctionnements, où c'est une façon de donner la capacité à une économie afin que celle-ci réponde aux problèmes socio-économiques de la société. Et la troisième chose, lorsqu'on parle de la zone économique spéciale, John Maynard Keynes nous le dit, c'est dans le sens de susciter l'esprit entrepreneurial dans une main d'œuvre qui devient improductive. Alors, j'ai suivi le ministre, il est dans la politique publique, mais nous comme économistes, et je me dis, si j'étais président de la République, avec mon ministre de l'Industrie, M. Julien Paluku, la première question que je devais poser au ministre, monsieur le ministre, est-ce que vous avez déjà effectué une étude économique pour que nous puissions mettre en place des zones économiques spéciales? Parce que là, monsieur le journaliste, vous venez de lui révéler un élément important, c'est que nous avons une économie extravertie. Et vous avez aussi révélé un autre élément. Avec ce que nous avons connu, le parc agro-industriel
de Boutangalonjo,
tout, industriel, comme vous pouvez les appeler, comme vous voulez. Mais ici, nous devons revenir sur la planification économique de la RDC. Et au niveau de la nation, nous les économistes, nous proposons une planification dont je ne peux pas parler de 50 ans. Comme vous lui avez posé la question, moi je m'interroge aussi.
Oui, allô?
Prendre avec les ministres. Oui, allô?
Oui, allez-y. Parce que vous avez il y a des petites coupures là avec vous.
Oui, je m'en excuse.
Oui, allez-y.
Alors, je voudrais comprendre avec les ministres. Est-ce que nous avons un plan stratégique de la mise en place de ces zones économiques spéciales? Et ici, moi, j'ai essayé un peu de feuilleter sur le net et même dans les sites du gouvernement pour trouver, pour chercher s'il y a une. Je n'ai pas trouvé, peut-être le ministre va m'aider. J'allais souhaiter que vous puissiez nous connecter avec le ministre et nous puissions faire un échange qui est correct. Pourquoi?
Bon, voilà. Alors, parce qu'il s'agit d'une préoccupation directe. Oui, Sylvain, parce qu'il s'agit d'une préoccupation directe, nous vous gardons en ligne. Monsieur le ministre.
Oui, j'ai bien suivi monsieur Sylvain qui appelle de Bounia, qui a des préoccupations importantes. Il a parlé effectivement de Keynes qui a dit que la mise en place des zones économiques spéciales, c'est pour citer l'esprit entrepreneurial. Évidemment, c'est ce que nous sommes en train de faire. La deuxième préoccupation, il dit, est-ce qu'il y a des études qui ont déjà été réalisées? Est-ce qu'il y a une planification économique sur base de laquelle, effectivement, ces zones vont être installées? J'ai dit effectivement oui. La première chose que nous avons pu faire, c'est d'abord de mettre en place la politique industrielle de ces pays. La deuxième chose, nous avons sous notre tutelle un bureau qu'on appelle Bureau National d'Études et Planification Industrielle. À l'époque, on l'appelait CEPI, Cellule d'Études et de Planification Industrielle. Mmh. C'est ce bureau-là, effectivement, qui élabore toutes ces études, qui nous fait la cartographie des 6 espaces industriels tels que le président les avait subdivisés dans son discours du 13 décembre 2019. Et dans chaque espace industriel, nous avons pu recenser effectivement les branches d'activité, les ressources naturelles qui y sont présentes et les industries à implanter dans chaque espace. Donc ce document-là est disponible au niveau du ministère de l'Industrie et c'est en fonction de ce document que nous pouvons nous dire dans l'espace Kassai, là, si nous y installons une zone économique spéciale, c'est essentiellement pour 1, 2, 3, 4 choses. Si nous installons une zone économique spéciale à Nitouri, à Njougou, ou je ne sais pas, à Mahagi, ou à Irumu, c'est parce que cet espace a X, Y choses. Donc cette cartographie, cette étude a déjà été réalisée par les bureaux d'études et de planification industrielle qui est sous tutelle de notre ministère de l'Industrie. Et donc, c'est sur base de tous ces éléments-là que nous sommes en train, effectivement, de commencer petit à petit avec des zones. Nous commençons par Maluku. Je l'ai dit, il y a déjà celle du Katanga, Haut-Katanga et Lualaba qui va suivre celle de Maluku. Celle du Nord Kivu devra suivre. Celle de l'espace oriental du Kassai et de l'Équateur devront suivre. Donc, c'est par palier que nous allons mettre en œuvre toutes ces zones économiques spéciales selon les études qui ont été menées par notre bureau, comme je viens de le dire
voilà.
tout à l'heure.
Alors, monsieur le ministre, on va terminer avec Sylvain. Sylvain, on va vous libérer. Vous avez compris la réponse du ministre ? Voilà, Sylvain n'est plus en ligne. On va prendre Christian. Christian Politas, si vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Géry, bonjour à l'invité.
Voilà, Christian, quel est votre avis par rapport à ces dossiers de zones économiques spéciales tels que déroulés par le ministre de l'Industrie qui est notre invité, en évoquant bien entendu la politique mise en place par le gouvernement en vue de la mise en œuvre de ces projets?
Déjà, c'est une bonne chose qu'il faudrait engager parce que cette zone économique viendra justement répondre à la question de la crise alimentaire qui se vit déjà en Afrique de l'Ouest. Et l'RDC, je ne crois pas qu'il serait épargné de cette situation. Voilà pourquoi il faudrait anticiper. Mais il va falloir que le ministre puisse expliquer aux habitants de ces milieux ruraux qu'est-ce qu'est une zone économique. En français, oui, nous nous comprenons, mais qu'est-ce qu'ils vont retenir? Il faut la zone économique est ça, boui. Parce qu'ils risqueront de croire que voilà, l'État Zoya Botabiso Mabéline Abiso passe à la solidarité. Il faut expliquer, monsieur le ministre, la communication sur ces points-là serait vraiment important. Au-delà de ça, ce que moi également je vais soulever, c'est qu'il aurait fallu que le contrat que le ministre et le premier ministre a signé avec cette firme qui sera chargée de mettre en application ces zones économiques puisse publier, n'est-ce pas, les contrats liant l'État congolais et cette firme afin que nous comprenions de manière claire et nette quelle est la part de l'État congolais, quelle serait la part de cette firme. Cela va permettre également que nous ayons une certaine traçabilité et éviter une gestion opaque. Mais au-delà de ça, la part du ministre, c'est une bonne chose. Mais ce qui nous inquiète aujourd'hui, Gilles Lungembo, en fait, nos autorités profitent de ce genre de situation pour, n'est-ce pas, faire volatiliser ou encore faire le coulage des recettes. Parce que le ministre l'a évoqué tout à l'heure que voilà, les opérateurs économiques vont bénéficier d'un certain nombre d'avantages, notamment des allègements fiscaux douaniers. C'est une bonne chose. Mais hier, Lungembo, le rapport de l'IGF nous a démontré qu'il y a eu certains allègements, certaines exonérations fiscaux douanières qui ne profitaient pas, qui étaient en fait fantaisistes, qui ne profitaient qu'à un certain groupe d'individus. Alors nous craignons. Est-ce que la mise en application de cette zone économique n'est pas également un moyen pour les autorités, je ne vais pas ici dire le gouvernement, les autorités, notamment le ministre et certaines personnes, de chercher en fait un moyen pour également de faire échapper au trésor public qui les revient. C'est une chose. Et voilà pourquoi il faudrait également, il est nécessaire que les contrats ou encore les clauses qui lient le gouvernement congolais et cette firme soient publiées. Et cela va nous permettre voir tous les détails. Et puis, il faudrait déterminer à quel pourcentage cette firme va bénéficier de ces exonérations en termes fiscaux, en termes...
Oui, Christian, on va vous libérer. Parce que, est-ce que vous ne voyez pas... Quel est le danger qu'il y a dans ces projets lorsque on sait que c'est quand même une première, une nouveauté, et on sait généralement quand on tente une expérience, c'est avec beaucoup de peine, c'est vraiment ardu, quoi.
Oui, en fait, les dangers seraient si seulement le gouvernement essaie de tout faire au même moment. Le gouverneur, le ministre nous a parlé que cela va s'étendre sur l'ensemble du territoire. Mais j'aime bien, il y a un adage qui dit qui trop embrasse mal les trains. J'aimerais, moi personnellement, je conseillerais au gouvernement, notamment au ministre, de se mobiliser d'abord avec Maluku et puis les restes viendront après. Mais au-delà de ça, nous voulons une transparence pour publier les contrats et tous les
merci
détails.
Beaucoup, merci beaucoup,
aussi,
Christian.
Mais aussi,
alors, merci beaucoup, Christian, vous avez évoqué le...
Je finis par là. Quelle serait, en fait, la chance accordée à la main d'œuvre congolaise par rapport à cette... voté qui entre dans le monde économique congolais, Jérôme.
Merci beaucoup, Christian. Vous avez évoqué trois aspects dans votre intervention. D'abord, la question sur l'expropriation. Il faudrait que l'État puisse expliquer aux autochtones, expliquer à ceux qui sont propriétaires de terres également dans ces coins, là où on va réquisitionner ces sites pour, au fait, ces projets des zones économiques, pour qu'ils soient informés sur la question, mais aussi les contrats liant l'État congolais et la société qui est mise à profit dans ces projets soit publiée pour que la gestion ne soit plus opaque. Et en fin de compte, que la main-d'œuvre congolaise soit mise également à profit. Comme le disait tout à l'heure le premier intervenant, Sylvain Debounia, qui a évoqué le principe de Keynes pour susciter en fait l'esprit entrepreneurial dans ces milieux. Merci beaucoup, Christian Politesse, d'avoir appelé. On va prendre Ezekiel qui est à Kananga. Ezekiel, vous nous avez rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi et bonjour aussi aux invités qui participent à l'émission.
Alors quel est votre commentaire, Ezekiel?
Oui, tout d'abord, je m'en vais d'abord par féliciter le Premier ministre pour cette initiative parce que je dois d'abord aussi l'interroger. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait bien avant? Parce que maintenant il va le faire un peu plus tard. Mais sans toutefois tarder, je vais d'abord dire que nous ne voulons plus être impressionnés par de telles initiatives. Les dirigeants devront comprendre que la transparence des entreprises pose toujours problème ici en RDC. Vous allez voir que c'est un bon projet, c'est une zone économique qui est léguée, je ne sais pas, à une telle entreprise ou autre, et où oui, certaines entreprises privées vont aussi contribuer. Mais nous voulons d'abord la transparence est journaliste. Vous allez voir que plusieurs entreprises ici en RDC travaillent sans la transparence. Vous ne savez pas ce qui est fait dedans. Et le chef de l'État, dernièrement, il a parlé de la corruption. C'est un fait réel. Et ce fait-là est en train toujours de céder beaucoup de problèmes. Et les fruits de la corruption, vous allez voir qu'il n'y aura pas de développement. C'est pour cela que nous disons que c'est un bon projet, mais il faut que toutes les activités qui seront entreprises là-bas, je peux dire dans la société ou bien dans la zone économique, qu'il y ait la transparence, que le peuple congolais puisse savoir qu'est-ce qui se passe dedans.
Parce oui, donc si je comprends bien, Ezekiel, pour vous, vous voulez faire une idée très claire sur ce qui va se passer concrètement. Parce que zone économique, c'est comme une rencontre, un marché d'échange entre ceux qui amènent, je peux peut-être me tromper, avec un exemple très simple, lorsque s'organisaient des marchés de fortune pendant que, disons, il y avait la promotion du troc où chacun amenait ce qu'il avait comme objet de valeur. Et dans ces cas d'espèce, nous sommes dans un domaine purement où les filières telles que le manioc, le maïs, l'agro est beaucoup plus développée dans cette zone. Je crois que notre invité pourrait nous éclairer davantage là-dessus. Merci beaucoup, Ezekiel, d'avoir appelé et d'avoir accepté d'interagir avec nous. Elie Lokwavu, vous êtes en Bandaka. Bienvenue dans Parole aux auditeurs. Elie Lokwavu, vous n'êtes pas en ligne. Voilà, monsieur le ministre, vous avez suivi Christian Politas, Ezekiel, ainsi que Sylvain. Christian a évoqué la question d'expropriation ainsi que le contrat qui doit être publié. Que répondez-vous à Christian?
Oui, je voudrais remercier monsieur Christian pour ses interventions. D'abord, il a posé la question de savoir en français facile ou en termes simples pour la population, la zone économique c'est quoi, quels sont les avantages que la population pourrait tirer. Je veux tout simplement dire que une zone économique, selon la loi, doit avoir une superficie minimum de 250 hectares. Donc ce n'est pas 10 hectares, ce n'est pas 3 hectares, c'est minimum 250 hectares. Et ces 250 hectares ne sont pas pris à la population par force. C'est pourquoi les autorités provinciales et locales sont impliquées dans l'identification des sites qui doivent abriter la zone économique spéciale. Les avantages que la population tirerait dedans, c'est quoi? Lorsque on est dans une région agricole, un pays comme le nôtre, tous les produits qui seront transformés dans la zone économique spéciale sont achetés sur le marché local. Et c'est donc une manière de stimuler les producteurs locaux qui n'ont pas de marché d'écoulement de leurs produits. Donc la zone économique spéciale va devenir pour la population un marché sûr pour capter toutes leurs productions. Si vous êtes dans un espace où on produit des arachides, on produit des fruits, on produit du manioc, on produit du maïs, on produit n'importe quoi qui n'est pas transformé, eh bien la zone économique spéciale, c'est cet endroit où vous allez vendre tous vos produits auxquels maintenant les entreprises vont donner une valeur ajoutée pour promouvoir et l'exportation et la consommation intérieure. Donc ça, c'est l'explication simple que je pourrais donner à la population. Alors, il a dit, Christian, ben, est-ce que c'est pas un moyen pour les autorités de faciliter le coulage et les autorités vont s'arranger entre elles pour prendre cet argent? Non, je crois que tellement que le pays a connu suffisamment de problèmes, la population ne croit plus à ce que les autorités sont en train de dire. Mais pour une fois, je crois que comme on a cru à moi dans ce que j'ai fait quand j'étais gouverneur du Nord Kivu, il faut que les gens croient quand même à ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas ministre de l'Industrie vraiment pour vendre du vent à la population. Je suis en train de parler des questions pour lesquelles je voudrais laisser aussi des traces à la tête de ces ministères. Le jour où je cesserai d'être ministre, je serai heureux comme aujourd'hui on passe à Goma, on voit la ville qui est en train de se moderniser, on sait qu'il y a une main de quelqu'un qui est passé par ici. Donc je voudrais quand même qu'à la fin, lorsque je vais cesser d'être ministre de l'Industrie, qu'on dise, eh bien Julien Palouc est passé par là, il a laissé 1, 2, 3, 4 choses que d'autres vont devoir continuer parce que l'administration est une continuité des affaires d'État. Je voudrais donc rassurer qu'au niveau de la main d'œuvre, il y a des outils que nous avons déjà mis en place pour que la main d'œuvre ne soit pas essentiellement constituée des étrangers. Pour que tout au plus, nous ayons seulement 10% du personnel extérieur qui travaille dans la zone économique spéciale et qu'on ouvre dans chaque zone économique spéciale une école de formation pour le transfert de technologies. Ça, ce sont des outils que nous avons déjà mis en place. Et cela permettra à ce que, effectivement, à terme, la technologie que nous avons importée de l'extérieur soit une appropriation congolaise et que désormais ce soit des Congolais maintenant qui deviennent des spécialistes dans la mise en œuvre des autres zones économiques spéciales. Donc tout cela a déjà été monté au niveau du ministère de l'Industrie et nous garantissons à la main d'œuvre congolaise que c'est elle qui va travailler dans ces zones économiques spéciales au lieu de croire que ça sera un marché ou un dépotoir de tout ce qui nous viendrait de l'extérieur.
Alors,
voilà
les éléments
que je peux donner à M. Christian. Maintenant, pour Ezekiel de Kananga, je voudrais lui dire que au niveau du ministère, on a déjà fait une étude sur d'ailleurs l'espace de Kalamambouji, c'est à la frontière avec l'Angola, où entre Kalamambouji, Mbujimayi et le port de Ndomba, il y a un choix qui devra être opéré pour la prochaine zone économique spéciale. Maintenant, on se demande, est-ce que devrons-nous mettre toutes les zones économiques spéciales en marche au même moment, au risque de tomber sous l'adage de qui dit qui trop embrasse mal les trains? Je dis non. Les zones économiques spéciales ne sont pas mises en œuvre par une personne. Si aujourd'hui, Maluku est mise en place par la société Stratégos, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, et que demain, il y ait un autre privé qui veut mettre en place celle de Kalamambouji dans le Kasaï central, un autre NVC veut le mettre dans le Sidoubangi, là où nous avons été à Gwaka, à la lisière de la Mangala, un autre veut le mettre à Moussienen au sud de Kivu, au nord Kivu, on ne va pas empêcher ces différents investisseurs de pouvoir s'installer parce qu'ils sont indépendants l'un de l'autre avec des moyens qui ne dépendent pas des uns des autres. Donc voilà la réponse aux différentes préoccupations qui m'ont été posées.
Alors juste une question de curiosité, parce que les communs des mortels aimeraient savoir, est-ce que c'est la firme Stratégos avec laquelle le gouvernement vient de signer un partenariat et qui est le responsable de ces sites de Maluku qu'on vient d'attribuer à la zone économique? Ou bien c'est plusieurs partenaires?
Effectivement, c'est la firme Stratégos qui a gagné le marché dans un processus qui était piloté par la Banque mondiale. Parce que c'était l'affaire, la zone économique pilote. Et le gouvernement a eu l'accompagnement de la Banque mondiale qui a fait un appel d'offres international avec beaucoup de concurrents. Là, je mets à témoin le gouverneur de l'Ituri, qui connaît d'ailleurs M. Bamanissa, qui connaît d'ailleurs ce projet, et qui sait qu'il y a eu beaucoup de compétiteurs dans ce projet-là. Et donc, la société Stratégos a gagné, selon un processus transparent, les marchés par la Banque mondiale, et aujourd'hui le gouvernement a signé avec lui effectivement la remise de la zone pour que maintenant celle-ci puisse faire appel aux entreprises aussi bien nationales qu'étrangères qui vont devoir s'installer dans cette zone économique spéciale de Malou.
Voilà donc. Alors nous recevons professeur Sari, professeur Sari, qui nous a rejoint. On va voir un peu le regard scientifique sur cette question. Professeur Sari, vous êtes avec nous? Alors, professeur, notre invité, le ministre de l'Industrie, a dit et a affirmé qu'effectivement, c'est une première comme projet, cette zone économique. Et quelle est son opportunité? Est-ce que c'est une première dans la République démocratique du Congo?
Merci beaucoup. D'abord, je salue son Excellence, monsieur le ministre, qui peut-être me reconnaît encore parce que j'ai été avec lui à l'Isère Bukavu alors qu'il était encore étudiant. Il a évolué, moi j'ai évolué, donc l'église pour moi c'est vraiment bravo parce que c'est un de nos produits de l'Institut supérieur de développement rural à Bukavu. Donc je suis fier de lui. Et alors pour répondre à votre question, je dis que ce n'est pas la première. Maluku était déjà depuis la période de Mobutu choisi comme une zone économique spéciale. Rappelez-vous l'installation de la sidérurgie de Maluku. Et ce sont les Italiens qui ont installé. L'idée était en fait de commencer par là et d'étendre d'autres activités. Depuis cette période-là, malheureusement, la sidérurgie qui avait des chaînes à froid et à chaud n'a pas fonctionné. J'étais conseiller au ministère de l'Industrie pendant une certaine période. Nous sommes allés visiter Maluku. C'était un vide. Juste quelques commerçants congolais qui se sont installés autour. Et Maluku, il y a eu des Indiens qui sont même venus, qui voulaient reprendre Maluku, qui ont essayé, finalement, qui ont fermé, qui sont partis. Donc, ce n'est pas, en fait, une première initiative. De même, pendant la période de Mobutu, on avait déjà conçu Inga comme une zone économique spéciale. Ça a été une idée qui est restée vague, jusqu'au moment où, finalement, les Sud-Africains sont venus. Ils ont même suggéré qu'ils puissent, en fait, s'associer avec l'État congolais pour Inga 3 et ils en feraient une zone économique spéciale de l'Afrique australe. Mmh. Ça a été un échec. Nous avons attendu. La Banque mondiale dont on parle a retenu encore un projet appelé Pôle de croissance ouest, et qui comprenait de nouveau Matadi, Boma, jusqu'à Kinshasa, comme une zone de croissance qui pouvait être soutenue par la Banque mondiale. Et là, on prévoyait, en fait, si vous voulez, la production essentiellement des produits agricoles. Manioc, riz, huile de palme, etc. Malheureusement, nous avons attendu les résultats, il n'y a rien. Ce que son Excellence, M. le ministre Maluku, est en train de dire, bon, moi, j'ai été au ministère de l'Industrie, j'ai été là comme conseiller, je sais de quoi il s'agit. Il y a autant de plans, autant de programmes, autant de projets qui dorment dans les tiroirs. Et chaque ministre qui arrive, il a l'impression qu'il n'y avait rien, je recommence. Et pourtant, on commence. Et ça échoue. C'est ça la question essentielle. Pourquoi ça échoue? Du point de vue économique, un industriel étranger à qui on demande de venir, mais il vient, il va faire ce qu'on appelle études, si vous voulez, du millier, et il retourne, il réfléchit, il a son argent, il veut investir, mais il va savoir, j'investis où, je gagne quoi, quelles sont les opportunités qui se présentent. On ne fait pas venir les industriels comme ça par des textes légaux qui disent, vous avez tel avantage, non, j'enseigne le cours des sociétés internationales et mouvements de capitaux. Je sais qu'il y a actuellement, si vous voulez, beaucoup d'exigences de la part des industriels. Toutes les grandes activités économiques et industrielles qui se passent là, se passent dans ce qu'on appelle le triangle de prospérité qui comprend l'Asie du Sud-Est, qui comprend l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Voilà ce qu'on appelle le triangle de prospérité aujourd'hui. L'Afrique, toute l'Afrique, pendant plus de 20 ans, n'a reçu que 3% des investissements directs étrangers par rapport aux investissements dans le monde. 3%. L'Afrique ne participe qu'à 2% dans le commerce mondial. Et le Congo, c'est 0,28%. Donc, vous comprenez que nous avons des opportunités, mais nous devons d'abord préparer nous-mêmes les possibilités d'accueillir ces investisseurs. Ils viennent les choisir.
Seulement, oui. Alors, en quoi consisterait l'opportunité de cette zone économique spéciale pour la RDC qui a une économie extravertie?
Bon, d'abord, je commence par dire ce que c'est ça, Maloukou. Ça m'étonne parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais elles sont où? J'ai vu des entreprises. Une entreprise qui va fabriquer les hélicoptères, pour en faire quoi? Une entreprise qui va fabriquer les camions électriques, pour en faire quoi? Est-ce que vous croyez que ces deux entreprises, fabriquer les camions, fabriquer les hélicoptères, ça va intéresser vraiment l'économie congolaise du point de vue du marché intérieur? J'ai dit non.
Voilà. Alors, professeur, on va poursuivre avec vous. Nous gardons en ligne le temps de libérer l'auditeur et puis on revient à monsieur le ministre parce qu'il a, okay. il nous a dit bah, il a quand même d'autres charges. Et Liloquois, vous êtes avec nous en Bandaka?
Oui, allô, bonjour Radio Kapi.
Oui, Liloquois, quelle est votre réaction?
Oui, allô?
Liloquois, quelle est votre réaction?
En tout cas, je remercie les points de vue de notre invité, son Excellence, Monsieur le Ministre. Généralement, les zones économiques spéciales, en tout cas, c'est une région géographique dans laquelle les lois économiques sont plus libérales, c'est-à-dire plus avantageuses pour les entreprises que celles pratiquées dans le reste du monde. C'est-à-dire ici, les zones économiques sont créées généralement dans le but d'attirer les investissements étrangers. Alors, une grande partie même de la littérature sur les zones économiques spéciales désigne que ce sont des parties délimitées, en quelque sorte, au sein desquelles les activités industrielles, commerciales, doivent bénéficier d'un certain régime particulier en matière de fiscalité. Alors, lorsque même nous lisons en référence au projet du gouvernement congolais, la loi numéro 14/022 du 7 juillet 2014, fixant le régime des zones économiques spéciales en RDC, il y a une typologie des zones économiques spéciales ou soit des zones économiques de libre-échange national ou soit régional. Moi, j'aimerais un peu poser la question à notre invité. La zone économique spéciale de Maloukou, c'est une zone économique spéciale de la production industrielle, une zone économique spéciale d'innovation technologique, une zone économique spéciale touristique ou de loisirs, une zone économique spéciale portuaire ou soit une zone économique de parc agro-industriel ou une zone économique franche. Parce que nous devons un peu savoir de cette typologie pour bien identifier la possibilité d'instituer une zone économique dans cette partie de la République. Parce que vous avez suivi la plupart d'interventions de la plupart d'auditeurs aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre quel est le type, en tout cas, de cette zone économique qu'on a voulu ou que l'on veut installer dans cette partie de la République, c'est-à-dire à Maloukou. Parce qu'à Maloukou, on n'arrive pas à comprendre, parce que Maloukou, c'est un port de la République, c'est un domaine privé de l'État, où on ne peut tout simplement qu'instituer comme une zone économique spéciale portuaire, qui aura par exemple la possibilité à proximité des ports maritimes internationaux ou nationaux, afin d'assurer aux investisseurs la proximité directe des principaux corridors de trafic ou de transit avec des biens qui vont venir de partout qui seront un peu stockés dans cette partie de la République pour les déchargements. Et voilà, ça va permettre la construction, en tout cas la construction navale, la production des composants pour le transport maritime et de l'aéronautique, les services de maintenance et de réparation pour le transport maritime et les services logistiques et portuaires dans cette partie de la République. Alors, pour ce que nous avons aussi suivi, qui est dans cette thématique, que vous avez soulevé un point saillant, c'est-à-dire que toutes les provinces de la République doivent aussi adhérer à cette vision.
Ils vont bénéficier des zones.
Et bien entendu, instituer les zones économiques dans leurs entités respectives, c'est-à-dire que même ici à l'Équateur, même ici dans la province de la Toapa, Mongala, ainsi de suite, même les deux provinces peuvent en tout cas créer les jumelages pour qu'il ne fût qu'un marché commun, un marché spécial comme zone économique de libre-échange, et pouvoir permettre à des provinces qui se sont adhérées à une telle vision de la création d'une zone économique interprovinciale, de pouvoir un peu booster, de booster l'économie de la
merci,
province.
Merci beaucoup,
par
Christian.
Par exemple, la province de la Sampa, excusez-moi,
voilà.
Cher ami.
Oui, rapidement, parce qu'on sait que...
Oui. Allô?
Oui, rapidement, hein, place, juste...
Oui, prenons par exemple la province de la Choapa, qui a des immenses et des potentialités en termes de richesses géologiques tout comme écologiques, mais bien entendu, cette province a certaines difficultés pour devoir exploiter toutes ses ressources parce qu'il y a un problème sérieux de moyens, mais la Choapa, par exemple, peut créer un certain partenariat pour la création d'une zone économique avec la province de l'Équateur, avec la province de Mongala, voilà. Parce que ce sont des provinces aux alentours de la province de la Choapa, et ceci pourra permettre à notre population de bien comprendre les différentes activités qui vont se mener sur le terrain et permettre un peu à notre économie d'aller un peu de l'avant. C'est ça aussi l'importance
d'un... Voilà, merci beaucoup. Alors on va accorder la parole. Merci beaucoup Christian d'avoir appelé de Kinshasa. On va accorder la parole à notre invité, Monsieur Gilles Paloukou. Je crois que, disons, vous avez d'autres charges. Le temps, merci d'ailleurs du temps que vous nous avez accordé. C'est nous qui allons d'ailleurs nous excuser d'avoir commencé en retard. Alors, comment réagissez-vous par rapport à la préoccupation de Christian? Et oui, le professeur Sari.
Sari que je salue beaucoup. Hein.
Oui.
Ça fait longtemps, vous savez, j'étais en 1993 à l'ISDR Bukavu. Et je crois que le professeur Sari doit se réjouir d'avoir eu un étudiant qui a bien assimilé les cours de planification. Et c'est d'ailleurs ça, mon diplôme de l'ISDR. Je suis un planificateur de formation. Et donc, je suis en train de mettre en pratique les outils de planification. Dans tout ce que j'ai fait depuis que je suis à la tête des institutions au niveau aussi local, provincial qu'on a aujourd'hui, je ne fais que mettre en œuvre les outils de planification pour me projeter dans l'avenir. Alors, répondant à la question de savoir, mais la sud-régie de Maluku avait été aussi installée, il y avait une zone qui devait être attachée à Inga, il y avait un pôle de croissance qui devait gérer Matadi, etc. Toutes ces initiatives n'ont pas réussi parce qu'il n'y avait pas de choix. Et M. Elie Lokwa, qui nous a parlé de l'Équateur, nous a rappelé effectivement que c'est depuis 7 juillet 2014 que la République démocratique du Congo est dotée de la loi fixant les régimes des zones économiques spéciales. C'est à partir de ce moment-là, effectivement, que la loi dispose la manière dont on peut mettre en œuvre ces zones économiques spéciales. C'est à partir de ce moment-là qu'on a mis, comme je l'ai dit au départ, l'agence qui devra réguler les activités qui se passent dans ces zones. C'est en 2020 que nous aussi nous sommes venus maintenant pour faire adopter les décrets portant sur les avantages accordés dans les entreprises qui œuvrent dans la zone économique spéciale. D'ailleurs, très prochainement, nous sommes en train de vouloir convertir ces décrets en loi pour enrichir la loi de 2014 pour que toutes ces facilités, tous les avantages qui ont été repris dans les décrets soient plutôt contenus dans la loi pour que cette loi soit opposable à tous, que quelqu'un ne vienne pas un jour et remettre en cause le décret du Premier ministre ou l'annuler par un acte contraire. Donc voilà les éléments que nous sommes en train de planifier pour que, effectivement, ces zones économiques spéciales ne puissent pas connaître des échecs comme les expériences passées. Alors par rapport à la typologie, M. Elie Lokwa nous demande, alors la zone économique spéciale de Maluku appartient à quel type de zone économique spéciale? Est-ce la production industrielle? Est-ce que l'innovation technologique? Est-ce une zone portuaire? Alors, l'expérience que nous voulons monter à Maluku, c'est une zone de production industrielle en même temps d'innovation technologique. Et j'ai dit au départ que toutes les autres études qui sont faites à l'intérieur des espaces congolais tiennent compte des spécificités locales. Si dans la zone de l'Équateur, on produit les latex de VA, on produit café, on produit le cacao, on produit, je ne sais pas, les arachides, on produit ceci, la zone qui sera installée tiendra compte effectivement des spécificités locales. Il ne sera pas de même lorsqu'on va installer une zone à Kisangani. Celle de Kisangani, par exemple, peut être une zone de bois, où on s'est dit, pourquoi nous continuons à importer les meubles de la Chine alors que nous gardons la deuxième forêt au niveau mondial? Donc, chaque étude tient compte des spécificités de chaque espace et chaque zone sera installée en fonction des sources locales, des matières premières qui devront être exploitées et bénéficier effectivement à la population congolaise. Voilà donc pour le professeur l'étudiant d'il y a 27 ans qui est devenu aujourd'hui ministre, mais qui met en œuvre les outils de planification qu'il a apprises, effectivement, à l'IESR Bukavu, qui est mon alma mater, que j'ai dû compléter par d'autres formations, effectivement, universitaires et post-universitaires.
Voilà. Alors, monsieur le ministre, je crois que si vous avez encore le temps, vous pouvez nous accorder quelques minutes. On va écouter les auditeurs et on revient derrière au professeur Sari. On sait que, voilà, vous avez des multiples occupations, mais on voudrait quand même pendant quelques minutes avant de conclure. Le professeur, vous êtes avec nous.
Oui, je suis avec vous.
Alors, l'expérience faite, disons, l'expérience faite par d'autres pays en Afrique, est-ce qu'on peut la comparer aujourd'hui pour aider, tant soit peu, la RDC à s'engager réellement dans ces projets afin de réussir? Est-ce qu'il y a eu des expériences, de telles expériences au niveau de l'Afrique déjà?
Exactement. Ici, chez nos voisins, Congo-Brazzaville, il y a déjà une expérience qui est tentée et qui semble quand même réussir aussi. De même aussi au Maroc, il y a aussi des expériences qui sont en réussite. Il y a aussi le Gabon où il y a plus de 80 entreprises qui sont en fait installées, qui sont dynamiques dans la zone économique spéciale au Gabon. Donc il y a des réussites. Il y a des réussites. Ça, c'est un fait. Maintenant, le cas de notre pays, il est différent. C'est la Banque mondiale qui, en fait, a promis de l'argent pour la dynamisation de cette zone économique spéciale de Maluku. Jusqu'à ce jour, à moins que je me trompe, elle a décaissé 5 millions sur les 27 qui sont attendus. 5 millions. Et finalement, le projet semble piétiner. Même s'il y a cette entreprise Stratecos qui finalement est gestionnaire et qui a gagné le marché, il faut vous dire quand même que le décaissement des fonds qui viennent de l'extérieur pose énormément de problèmes. Il y a toute une longue procédure. On peut donc concevoir des projets, des programmes aujourd'hui pour recevoir l'argent à compte-goutte. Voilà le premier défi pour notre pays. Le gouvernement congolais a dit, même si le gouvernement de la Banque mondiale ne nous donne pas, nous-mêmes nous allons en fait recourir à nos moyens propres. Mais vous savez vous-même que nos moyens propres ne suffisent pas. Troisièmement, je vous ai dit, tout dépend des entreprises qui s'installent. Pour cette zone de Maluku, il est dit entreprises privées nationales ou alors entreprises mixtes, c'est-à-dire État et privé, ou les entreprises étrangères. Mais qui sont ces Congolais qui, en fait, membres de fait, qui font trop de bruit? Qui sont prêts à aller investir à Maluku? Point d'interrogation. Ensuite, vous avez le problème d'évacuation des produits, les voies d'approvisionnement, les voies de sortie. Vous avez le problème de l'électricité, le problème de dépôt, le problème d'aménagement des terrains. Pour, par exemple, le pôle de croissance, le pôle de croissance ouest, il a fallu beaucoup de temps pour que les gens acceptent de quitter leur terrain et d'être dédommagés. Mais avec combien? Avec combien d'argent ils vont aller où? Donc tout ça, ce sont des problèmes qui se posent dans notre pays. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de programmes.
Voilà. Professeur, si vous le permettez, on va écouter Alain Bolodjoa parce qu'on va les libérer aussi, et un auditeur qui nous a rejoint. Alain, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour à nos capés, bonjour à tout le monde.
Quel est votre regard, quel est le regard que vous avez par rapport à ces projets des zones économiques spéciales à RDC?
Bon, moi personnellement, je salue dans une certaine mesure la démarche, parce que nous savons que lorsqu'on parle des zones économiques spéciales, c'est justement pour inciter l'investissement. Mais notre crainte réside plutôt dans ce que vient de relever monsieur le professeur. C'est justement parce que nous sentons qu'il y a beaucoup de cassures en termes d'approche, en termes de démarches. Parce qu'en réalité, les zones économiques spéciales entrent dans le cadre des objectifs ou des stratégies de développement de manière globale. Mmh. Et pour ce faire, on doit avoir un plan de développement. C'est sur base de ces plans de développement qu'on va articuler le mécanisme de l'atteinte des objectifs en fixant notamment la création des zones économiques spéciales. Mais si on doit le considérer de manière isolée, eh bien, ça risque de créer beaucoup de méfaits qui ne vont pas nous profiter. Parce que ce qui est vrai, lorsqu'on met en place des zones économiques spéciales, il y a des incitatifs. On doit inciter les gens à venir investir, que ce soit sur le plan local que sur le plan international. Et cela doit répondre à une vision de développement. quelle est notre vision de développement? Quels sont les secteurs phares auxquels nous pouvons baser nos politiques publiques? Quelles sont les politiques d'aménagement que nous avons déjà enclenchées? Parce que je ne vois pas comment on peut inciter l'investissement lorsqu'on n'arrivera pas à résoudre le problème de l'énergie, lorsqu'on n'arrivera pas à résoudre le problème de voies d'évacuation, lorsqu'on ne résoudra pas le problème de droit d'entrée et de sortie de produits, ce que nous pourrons appeler le douane. Ce qui veut dire que nous avons d'abord l'obligation de mettre sur pied un plan de développement et l'idée de créer des zones économiques spéciales doivent se greffer à ces plans de développement-là. Parce que si nous ne sommes pas méthodiques, nous risquons de connaître des ratés. Il n'y a pas qu'au Congo où on a pris l'initiative de créer des zones économiques spéciales. Je prends le cas de l'Inde. Ils ont tenté avec les zones économiques spéciales, mais ça a échoué dans une certaine mesure. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas seulement faire des choses par mimétisme. Il faut vraiment intégrer tout ça dans un cadre de politique globale. Et ainsi, on va dégager le point fort et le point faible. On va prendre des initiatives pour que nous arrivions effectivement à rentabiliser ces projets-là. Mmh. Et si on doit le faire justement pour faire plaisir ou sinon pour nous adapter à ce qui se fait ailleurs, eh bien, nous risquons de créer des points de déséquilibre qui risqueront de mettre en mal la structure économique qui est déjà vulnérable.
Merci beaucoup.
Donc, moi, je pense, de mon point de vue, qu'on doit plutôt intégrer ça dans un cadre global et non le prendre de manière isolée.
Voilà, intégrer ça dans le cadre global. Est-ce que c'est là l'idée du gouvernement, Monsieur Gilles Paloukou? En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Oui, je voudrais apaiser Monsieur Alain que le gouvernement a adopté le 27 décembre 2019 à Zongo, lorsqu'on a délocalisé le Conseil des ministres, le plan national stratégique de développement. Et c'est en fonction du plan national stratégique de développement qu'au niveau du ministère, effectivement, nous avons aussi fait adopter par le même gouvernement la politique industrielle qui donne la vision du pays par rapport au seul secteur industriel. Donc il doit être apaisé, ces outils dont il a fait allusion sont déjà disponibles au niveau du ministère du plan et au niveau du ministère de l'Industrie. Pour répondre au professeur, la Banque mondiale avait promis effectivement cet argent-là. Je voudrais également l'apaiser pour dire nous avons reçu un crédit, un appui budgétaire. Non, c'est pas seulement en fournu de la Banque mondiale, mais de la Banque africaine de développement, de 140 millions de dollars. Dernier conseil des ministres qui a été tenu, effectivement, il a été décidé qu'une partie de cet appui budgétaire qui a été accordé au gouvernement soit allouée à la mise en œuvre de la zone économique spéciale pour que les 22 millions restants soient débloqués, chose faite. Donc voilà donc les précisions détaillées que je voulais apporter pour que l'opinion sente et sache que nous sommes sur le pas vraiment de mettre en œuvre les grandes zones économiques spéciales et que ce n'est pas un discours, ce n'est pas du vent que nous voulons vendre à la population congolaise. Je voudrais plutôt demander à tous qui ont de bonnes idées, comme le professeur Sari, de nous contacter, de nous accompagner pour enrichir ce qu'on est en train de faire, parce qu'on ne peut pas supposer détenir le monopole de la connaissance de tout ce qui concerne la mise en œuvre des zones économiques spéciales.
Merci beaucoup, Monsieur Julien Paloukou Kaongia, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'échanger de manière citoyenne avec les auditeurs, en tout cas. Vu vos charges de la République, nous ne pouvons pas vous retenir le plus longtemps possible. Merci, on s'arrête là avec vous.
Merci, merci. J'ai dit merci à tous les intervenants et toute la population congolaise qui est en train de nous suivre.
Voilà, on poursuit cette émission avec vous, professeur Sari. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Et si vous pouvez également revenir un peu dans les concepts, dans des termes clairs, qu'est-ce que la population peut retenir comme zone économique? Quel est l'objectif et quels sont les avantages qu'on peut tirer de ces zones?
Merci beaucoup. D'abord, pour cette zone de Maloukou, les objectifs qui sont retenus par le pouvoir, c'est l'intégration nationale et transformation des ressources naturelles. C'est ce qui est retenu dans les textes. La loi, comme on dit, depuis 2014. Imaginez-vous que 2014, il fallait attendre 2020, janvier 2020, pour qu'on puisse finalement mettre en place. En réalité, qu'est-ce que nous attendons des zones économiques spéciales? C'est d'abord l'apport des capitaux pour la population nationale. Deuxièmement, c'est la création de l'emploi. Troisièmement, comme on l'a dit, c'est, si vous voulez, le transfert de la technologie de manière à ce que même si ces industriels étrangers partaient, que nous soyons capables nous-mêmes, si vous voulez, d'assimiler leur savoir-faire. Parce que, en plus de cela, une zone économique nationale doit élargir le marché intérieur. Élargir le marché intérieur, cela signifie que
Donc, il y a plusieurs zones économiques, il y a création de l'emploi, il y a alors une forte demande des biens, et cette forte demande des biens va créer en amont l'offre. Mais je venais de vous dire que pour Maluku, il est prévu de fabriquer des camions, il est prévu de fabriquer des hélicoptères. C'est ce qui est prévu. Jusqu'à présent, je retiens ces deux projets-là. Fabriquer les hélicoptères par qui, les camions par qui, quel sera le transfert, et ces produits seront destinés à quel consommateur congolais, je n'en sais absolument rien.
Voilà.
Ce sont, je voudrais dire une chose.
Oui, c'est rapidement.
À une zone économique spéciale qui est, si vous voulez, développée par les Chinois. Mais là, ils développent quoi? Le textile, l'habillement, la chaussure. Aujourd'hui, certains produits made in China viennent de l'Éthiopie. Ils ont, alors, si vous voulez, saisi une opportunité pour dire qu'il est possible, finalement, avec ces produits qui sont tellement consommés en Afrique, d'étendre l'exportation de ces produits parce qu'avec Ethiopian Airlines, il est facile finalement d'évacuer les produits de l'Éthiopie vers les autres pays africains. C'est en fait un exemple de réussite de zone économique spéciale en Éthiopie.
Merci beaucoup, professeur. On ne saura pas aller plus loin. Le temps nous est parti fait défaut. On s'arrête là. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Paul Badiadiam et Marcel Ngombombala Keba. Et cette émission vous a été présentée et coordonnée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. We'll be right back.